Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre émission consacrée à notre vie quotidienne, que ce soit du côté perso ou pro. Ici, on aborde de tous les sujets sans tabou, mais surtout, on vous donne nos meilleurs conseils et nos bons plans. Alors ce matin, Mélanie, par quoi on attaque ?
Alors aujourd'hui, Julia, on va commencer par cette question. Et si nos gestes disaient tout de nous ? On va donc parler de langage, pas de parole, de notre langage corporel. On verra comment décrypter cette communication non verbale et même savoir, par exemple, si quelqu'un nous ment rien qu'en le regardant. Ça peut être très utile, ah vous oui. L'entendrez. Et c'est Philippe Turchet qui va nous apprendre les rudiments de la synergologie, car c'est de cela qu'il s'agit. Il est docteur en sciences du langage, auteur du grand livre de la synergologie, paru aux éditions de l'Homme.
Et puis Mélanie, à 11h35, il y aura comme chaque matin notre dossier bien-être du jour. Aujourd'hui, place au monde merveilleux du gras. C'est le titre du livre de la médecin nutritionniste Laurence Plumet. Le gras, la graisse, nos petits et gros bourrelets, elle les a étudiés scientifiquement. Et vous verrez que même si on a tendance à les traquer, enfin en hiver surtout à les entretenir, eh bien ils sont quand même utiles au bon fonctionnement de notre organisme. Ce sera un entretien assez déculpabilisant, vous verrez.
Ensuite, Julia, à midi, ce sera notre séquence tendance avec notre bande de chroniqueurs, toujours à l'affût de ces nouveautés, de ces bons plans qui nous facilitent le quotidien. Il y aura d'abord Sophie Menu, qui nous propose ce midi de mettre les dattes à l'honneur en cuisine. Ce petit fruit, qu'on surnomme aussi le pain du désert, eh bien je vous préviens, avec elle, ses conseils, ce ne sera pas le désert dans l'assiette, ça c'est certain. Et après ces petites douceurs, on retrouvera aussi notre spécialiste livre jeunesse, Nathalie Le Breton. Aujourd'hui, elle a sélectionné pour nous quelques bouquins qui parlent des grands-parents. Des grands-parents hors normes, un bon moyen de faire du lien entre les générations grâce aux livres.
Et enfin, Mélanie, on va finir ce tour de table des tendances avec Philippine Darblé qui vient de tester pour nous une nouvelle tendance qui va nous mettre la pêche, des cours de danse nouvelle génération très thématisés du type apprends à bouger comme Britney Spears ou encore remue tes fesses comme Beyoncé. Bref, des cours de danse qui défoulent et qui nous aident à nous sentir bien ou mieux dans nos corps.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Et donc ce jeudi, on vous propose de démarrer l'émission avec cette question. Et si nos gestes disaient tout de nous ?
Et oui Mélanie, d'ailleurs vous utilisez beaucoup vos mains, moi c'est je trouverais, quand vous parlez. Alors, est-ce que vous pensez que ça signifie quelque chose en particulier ou alors est-ce que c'est juste votre côté méridional ? On va demander à notre invité justement ce qu'il en pense dans un instant. Mais avant cela, on va voir ce qu'a donné notre enquête du jour avec vous, Clément Lanoux, notre petit reporter de choc. Vous êtes allé sur le terrain avec
exactement, j'adore ce sujet en fait. Je connaissais pas le mot. Quand je suis arrivé, on m'a dit tiens, est-ce que tu peux enquêter sur la synergologie ? J'ai dit
oh là là.
Quoi ? La synergologie, d'accord. Donc je suis parti, j'ai regardé évidemment ce que c'était. Et puis je voulais pas être le seul à pas faire le malin, donc je suis parti dans la rue et j'ai tout simplement demandé aux personnes que je croisais ce qu'est la synergologie. Vous allez voir qu'au début, c'est surprenant. Hein.
Ouais, c'est les gens qui font des potions magiques, je crois.
Ah, c'est pas les gens qui font des potions, là, de la sorcellerie.
Donc apparemment, selon les ados, c'est de la sorcellerie. Bon, deuxième essai.
En fait, je sais pas, synergie, j'ai pas le latin là-dedans. La synergie, c'est quelque chose qui marche bien, quand t'es en synergie avec quelque chose. Synergologie, c'est la science de bien marcher, de bien fonctionner ensemble, peut-être.
On est moins loin, on s'en rapproche déjà, ouais, une dernière chance.
Alors je connais le mot, mais j'ai pas envie de dire des bêtises parce que je suis pas du tout sûre. C'est quand il y a une fusion de quelque chose, enfin, c'est pour moi c'est ça, mais je suis pas du tout sûre.
Vous pourrez croire que c'est Harry Potter qui l'a inventé.
Un peu. Alors là, on parlait de la synergie, mais la synergologie, justement, c'est le langage corporel. Étudier ce que dit votre corps, au-delà des mots, chaque geste, qui peuvent vous trahir ou pas, puisqu'apparemment, il y a certains éléments, certaines parties du corps peut-être chez vous qui vont vous trahir. J'ai demandé à cette dame, qu'est-ce qui vous trahit tout le temps, vous ?
Mon regard. Même si j'essaye de ne pas, par exemple, quand quelqu'un m'énerve, ou qu'une personne lambda que je ne connais pas fait quelque chose qui me déplaît, par exemple, jeter un papier par terre et que je le vois, mes yeux me trahissent complètement. J'essaye de ne rien faire paraître, mais mes yeux parlent tout seuls, donc c'est catastrophe.
Alors ça, c'est sage pour l'instant, mais vous l'avez dit dans le sommaire, on va surtout voir comment reconnaître un menteur. C'est ce que tout le monde veut savoir.
Adorait.
Voilà, les juges qui nous écoutent vont se dire peut-être qu'on va avoir la solution. Donc avant que vous répondiez, j'ai demandé dans la rue, à votre avis, on reconnaît comment un menteur ?
Il avale sa salive, il déglutit, il se gratte le menton.
Alors j'ai beaucoup regardé des séries qui sont basées sur ça, comme Lie to Me. Je sais qu'il y a la main dans le cou, c'est nerveux. On touche beaucoup ses cheveux aussi. Après, c'est des mini rictus qu'on a sur le visage et ça dépend de la personne aussi.
Il ne regarde pas dans les yeux. Qu'il a tendance à regarder ailleurs parce que s'il regarde dans les yeux, il va se sentir un peu trop vulnérable.
Donc là, les parents se disent, c'est génial, je vais pouvoir savoir lequel de mes enfants m'a menti sur cette bêtise. Mais inversement, est-ce que les enfants arrivent à déceler quand les parents mentent?
Oui, moi je reconnais facilement quand elle ment. Par exemple, quand ma mère est morte, je reconnais vite, elle rigole. Ou soit il y a genre des signes, genre des gestes et tout. Genre si la personne est mal à l'aise et tout, quand elle parle, je reconnais vite.
Mais les parents ne mentent jamais.
Jamais les parents ne mentent jamais. En tout cas, c'est un plaisir de faire ce sujet avec vous. Est-ce que j'ai menti ou pas là? Suspense.
Lisa, vous faites des moulinets avec vos bras.
Exactement.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Oh, c'est une petite danse pour partir.
C'est ça. Merci beaucoup Clément Lanou pour ce beau micro-trottoir qui nous apprend déjà beaucoup de choses. On va maintenant se tourner vers le spécialiste du sujet qui est déjà avec nous en studio. Bonjour Philippe Turchet.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences du langage, auteur du grand livre de la synergologie paru aux éditions de l'Homme. Alors justement Philippe, pour démarrer, est-ce que vous pourriez nous donner la bonne définition de la synergologie? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il n'y a aucune idée de potion magique, hein, je crois.
Non, pas du tout, non. C'est une discipline qui permet d'appréhender l'être humain à partir de la structure de son langage corporel.
Ah, tout simplement.
Donc, tout simplement, donc essayer de comprendre l'autre à partir de ce que l'on observe lorsqu'on le regarde.
Donc il n'y a pas de magie, hein?
Il n'y a pas de magie, non.
Mais c'est une science récente, c'est vous qui l'avez créée?
Oui, j'ai créé la synergologie il y a maintenant une trentaine d'années. Mais c'est un champ, la synergologie, parce que depuis une vingtaine d'années, avec ce qui est arrivé avec les neurosciences, ce que les neurosciences ont amené dans le champ de la science, et donc cette capacité à comprendre le corps et le cerveau comme un tout. Et puis le numérique aussi, qui permet d'avoir des gestes réalisés par des tas de personnes qu'on peut arriver à mixer en se demandant si le même geste observé chez des personnes différentes, veut toujours dire la même chose. Mmh. Ça, on ne pouvait pas le faire avant le numérique.
Comment ça s'étudie justement la synergologie? Vous observez des gens dans des situations particulières? Enfin, c'est quoi le point de départ?
Ben, y a deux choses. Il y a comment on trouve ce que ça signifie. Alors, pour trouver, ben justement, oui, c'est ça. C'est qu'on duplique les gestes. On regarde, il y a comme ça 1200 codes qui sont 1200 gestes différents. 1200 signes, hein, parce que c'est des gestes, c'est des signes corporels. 1200 signes corporels différents. Et ces 1200 signes, eh bien, ils ont été observés chez des tas de gens. Et chaque nouvelle vidéo montrant le même geste fait par des personnes différentes, eh bien, enrichit cette base de données.
Bien sûr, Clément.
Mais est-ce qu'il vaut mieux partir sur une seule personne? On pense à un politique qui étudiait, par exemple, 500 de ses discours, plutôt que les comparer à d'autres personnes. En gros, ma question est plus large que ça, on va dire. Bon, pour prendre l'exemple du mensonge, peut-être que moi, je vais me gratter la barbe. Mmh. Peut-être que Mélanie va, au contraire, bouger les épaules. on n'aura pas forcément le même langage.
Non, il y a deux questions, là. Donc, quand on observe la même personne, c'est ce qu'on appelle l'idiosyncrasie. Est-ce que deux personnes communiquent de manière différente? Et oui, on communique de manière différente. Sauf qu'il y a des grandes constantes. Mmh. Maintenant, quand vous parlez du mensonge, vous parlez de signes qui ne sont pas des signes de mensonge.
Je ne sais pas, justement.
C'est parce qu'en fait, quand on parle du mensonge, il y a vraiment deux grandes théories. Une théorie qui veut qu'on puisse décoder le mensonge par les émotions. Donc quelqu'un qui ment est ému, et c'est parce qu'il est ému qu'on va voir des choses qui relèvent des émotions. Et puis une autre théorie, qui est la théorie qui veut que... c'est difficile de mentir. Donc il faut penser à deux choses en même temps, à la vérité et ce qu'on dit à côté. Et en fait, la théorie émotionnelle, c'est une théorie aujourd'hui qui est défaite par la science. Mmh. On s'aperçoit qu'on peut être ému, quand on ment, on est ému, mais on est aussi ému quand on dit la vérité. Mmh. Il y a tas de moments où on est ému, on est mal à l'aise tout en disant la vérité. Et on pourrait passer pour des menteurs alors que simplement on est ému. Donc ces signes que vous imputez au mensonge, ben ce ne sont pas des signes de mensonge en fait.
D'accord. Non.
Très bien.
Merci.
Philippe Turchet, vous restez avec nous. On va continuer à décoder avec vous notre langage non-verbal, notre langage corporel. On va apprendre à nos auditeurs au moins quelques rudiments, leur fournir les principales clés de l'observation de ce langage corporel. Et ça peut être très utile dans le quotidien. Votre patron se moque de vous, et bien rien qu'en le regardant minutieusement, vous le saurez. Votre femme et vos enfants ne vous disent pas tout, vous le saurez aussi. Ce n'est pas de la magie, mais de la synergologie dont on vous parle ce matin sur Europe.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
On peut être timide ou on peut parler fort. De toute façon, on sait qui décide. C'est le langage du corps. On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor. De toute façon, on sait qui domine. C'est le langage du corps.
Eh bien voilà, déjà, Grand Corps Malade avait tout dit dans cette chanson. Vous êtes de retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Et ce matin, on répond ensemble à cette question. Et si nos gestes, notre corps disaient tout de nous? On vous explique tout cela avec Philippe Turchet. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences du langage, auteur du grand livre de la synergologie paru aux éditions de l'Homme. Alors on dit souvent que lors d'un discours, le langage du corps est plus important que les mots utilisés. Est-ce que, selon vous, c'est vrai?
Je pense qu'il ne faut pas prendre le problème comme ça, parce que ce qu'on dit, c'est important. Le discours, ça peut être ravageur dans un sens ou magnifique dans un autre sens. Donc, le langage verbal, il est majeur. Sauf que les mots vont le crédibiliser ou le décrédibiliser. C'est plutôt ça qui va se passer.
Vous voulez dire, le langage du corps
le langage du corps va le crédibiliser ou le décrédibiliser. Et c'est en ça que le langage du corps est fondamental, parce qu'il y a des gens auxquels on va croire parce qu'on a le sentiment qu'ils incarnent ce qu'ils racontent. Et puis il y a des gens qui diront les mêmes choses et on les croira moins. On se défera d'eux, désolidarisera d'eux, parce qu'on aura le sentiment qu'ils ne sont pas vrais, parce qu'on aura l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche.
À quoi ça sert concrètement dans la vie quotidienne, la synergologie ? À qui ça peut être vraiment utile ?
C'est utile à tout le monde. Dès que deux personnes se rencontrent, il y a matière à regarder ce qui se passe chez l'autre. Alors, ça va servir à des négociateurs pour négocier, ça va servir à des managers pour mieux comprendre leur équipe, ça va servir à des journalistes qui, lorsqu'ils poseront des questions, s'apercevront qu'ils amènent leur invité dans une zone où il est moins confortable.
Mais il y a des métiers pour lesquels on devrait vraiment être mieux formé à la synergologie, selon vous ?
Moi, je pense qu'en fait, tous les métiers où il y a de la relation humaine, il y a de la place pour le langage du corps et il est fondamental.
Alors, parmi les parties du corps les plus expressives, il y a évidemment nos yeux. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, que les yeux sont le reflet de l'âme ? Ou est-ce qu'on peut maquiller un peu nos émotions ?
Au départ, je pense que Cicéron, il parlait du visage qui est le miroir de l'âme plutôt que les yeux. Et puis, la citation a été transformée.
Avec les yeux.
Ouais. Avec les yeux. Mais il passe beaucoup de choses dans les yeux, c'est sûr. Mais en fait, il passe beaucoup de choses dans les yeux qui sont fondamentales. Mais quand on regarde le visage, c'est dans la bouche qu'il passe le plus de choses.
C'est dommage avec les masques.
Avec les masques, ça change beaucoup de choses, oui. Et c'est parce que dans la bouche, c'est là qu'il y a le plus de muscles. Donc, vous voyez, une bouche peut avancer, peut reculer, peut monter à droite, monter à gauche, descendre à gauche, descendre à droite. Il se passe des tas de choses qui ne se passera pas dans les yeux.
Mais avec les yeux, qu'est-ce qu'ils peuvent trahir de nous, nos yeux, justement, concrètement ? Je ne sais pas, quelqu'un qui aurait le regard fuyant, on se dit c'est qu'il n'est pas très à l'aise, mais est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on peut voir ?
Ou qu'il est introverti. Hein. Ça, c'est vraiment un stéréotype. On pense que, et notamment que la personne qui va mentir ne regarde pas dans les yeux, par exemple. On y reviendra peut-être après, alors que ce n'est
pas vrai.
C'est pas vrai du tout, non.
Ça peut être la timidité, tout simplement.
Oui, non, c'est même exactement...
Les champions du monde du mensonge, ils sont capables de vous regarder droit dans les yeux.
Ce n'est pas le champion du monde du mensonge, c'est nous tous. C'est-à-dire que le stéréotype le plus partagé dans le monde, c'est que le menteur ne regarde pas dans les yeux. 51 pays sur 58, quand même. C'est le premier stéréotype. Et puis, alors qu'on s'aperçoit que c'est exactement le contraire.
Donc, quand on veut bien mentir, on regarde quelqu'un dans les yeux.
Et on le fait inconsciemment. Si vous commencez à regarder vos chaussures quand vous parlez à l'autre, vous avez bien le sentiment qu'il ne vous croira pas. Donc, le menteur, c'est la chose à laquelle il pense. Et pourquoi ? Sans doute parce que quand vous avez un enfant de 4, 5 ans et qu'à un moment donné, il fait une grosse bêtise et qu'il vous dit que ce n'est pas lui, vous lui dites « Mais tu pourrais me redire ça en me regardant dans les yeux ?»
C'est vrai.
Et le petit enfant est persuadé que s'il s'est fait prendre, s'il s'est fait avoir, c'est parce qu'il ne regardait pas dans les yeux. Donc, il n'en conclut pas qu'il mentira plus jamais, mais il en conclut que la prochaine fois qu'il mentira, il mentira en regardant dans les yeux. Et ce petit enfant, c'est nous.
On
l'a intégré.
Alors, parfois, on se passe la main dans les cheveux, on se gratte le nez. Alors, vous appelez ça des autocontacts. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ça veut dire qu'on est mal à l'aise, forcément, ou ça pourrait être le contraire ? Je ne sais pas, par exemple, les cheveux, de la séduction ou...
Oui, dans les cheveux, il peut y avoir de la séduction. Il y a aussi du recadrage. Quand on ne veut pas se laisser aller, on va cadrer ses cheveux. Et puis non, en fait, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces gestes, et alors il va y avoir des gestes sur le visage ou le corps, dans les cheveux, il y a aussi des gestes sur les objets. Mais tous ces gestes, c'est, pendant qu'on fait ces gestes, on peut rester concentré avec nos interlocuteurs. Et donc, c'est des zones basales du cerveau qui, eux, vont gérer nos mal-être. Et en fait, nous permettre aussi de rendre compte quels types sont ces mal-être.
Donc, je reviens sur le chamboulement de la crise sanitaire, justement, et de fait qu'on porte tous des masques aujourd'hui. Est-ce que ça a changé et ça a bouleversé finalement votre science, la synergologie ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que désormais, on fait peut-être des gestes plus appuyés, puisque cette bouche qui nous sert beaucoup dans la communication corporelle, on ne peut pas l'utiliser ?
Je crois que c'est exactement le contraire qui se passe, en fait. Je pensais ce que vous dites au début de la pandémie, et je pense qu'au début de la pandémie, on a fait beaucoup d'efforts pour mieux communiquer avec l'autre, parce que la personne ne voyait plus notre bouche, donc on surchargeait notre corps. Et puis, au fil du temps, on s'est retranché derrière nos masques. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'on fait moins de gestes. C'est-à-dire qu'on supplée pas... au manque de la bouche par les gestes, on a arrêté de faire des gestes.
On
a mis notre corps en confinement, oui. Et en fait, on essaye de faire passer mieux les choses par les mots et en se servant de ce qu'on dit, et on a mis un petit peu notre corps en
retrait,
d'assaise.
Mais quand on est aussi nerveux, moi ça, j'ai pu observer ça avec moi-même et avec d'autres, parfois on se gratte, enfin, vous voyez, on se gratouille là, mais c'est
ça
normal.
Ça ne nous gratte pas forcément en plus.
Oui, mais, et puis ça ne gratte pas forcément aux mêmes endroits. Est-ce que la zone qui démange dit quelque chose de nous et de notre état? Donnez-nous des exemples.
Non, mais c'est sûr. Oui, c'est ça. En fait, ça gratte, mais il n'y a pas de bouton. C'est ça qui est curieux.
Ouais.
C'est qu'on se gratte le visage, le corps, et quand on regarde, il n'y a pas d'inscription tégumentaire, il n'y a pas de bouton. Et non, en fait, ça permet de gérer nos malaises et des fois de mettre notre corps en marche quand on ne sait pas comment s'y prendre avec l'autre. Je vais prendre un exemple. Vous êtes mal à l'aise avec votre interlocuteur et puis vous trouvez ses propos violents, ils vous mettent en danger, vous n'êtes pas bien avec ça. Donc on n'a pas réellement peur, on ne va pas se protéger le corps face à la personne à laquelle on parle, mais peut-être que on va plier notre coude comme ça et puis on va tout en parlant à l'autre, se gratter l'extérieur du coude en le ramenant vers nous, vous voyez, l'extérieur du coude ou de l'avant-bras. Donc on va se servir du corps en fait pour rester très sécure derrière nos mots, et on se sert du corps qui lui va nous protéger.
Si je me gratte le nez, ça veut dire quelque chose d'autre ou pas?
Ça dépend.
Parce que le nez, c'est fréquent, j'ai l'impression.
Oui, mais surtout le nez, c'est en fait 70% des micro-démangeaisons qui sont, on appelle ça les micro-démangeaisons, ces autocontacts qui sont faits sur le visage, sont faits autour de la zone du nez. Mais il y a plusieurs. Le nez, c'est pas le nez. Il y a plusieurs zones dans le nez, parce que si vous grattez le nez, vous voyez, on n'a pas la même attitude quand on se gratte sous le nez.
Ah oui.
Et en fait, il y a des Espagnols qui ont fait justement sur le mensonge par rapport au nez. On fait une étude particulièrement intéressante dans laquelle on demandait à des gens d'appeler leurs proches au téléphone et de leur mentir.
Oui.
Leurs proches, c'est-à-dire des gens qu'ils connaissaient bien. Et ils se sont aperçus avec des caméras thermographiques que quand ils appelaient leurs proches, en fait, et pour leur mentir, le nez devenait plus froid. Et il rétrécissait d'un millimètre environ.
Ah, mais c'est...
Et on pense que c'est pour réchauffer ce nez qui deviendrait plus froid que on se gratterait le nez sous le nez là.
Sous le nez.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Dans une zone qu'on va appeler N20 en synergologie.
C'est génial.
Et quand Pinocchio dans tout ça.
Pinocchio dans tout ça. On est au cœur de ça.
Mais
pourquoi que le dit à un moment donné, c'est dit. Le Pinocchio qui mentait,
Pinocchio,
nez s'est allongé. En fait, le nez
aurait pu rétrécir.
Par
exemple, quand on parle avec les mains, je pense à Mélanie qui généralement parle beaucoup avec ses mains.
Oui.
Ça veut dire quoi
Je m'appelle Gomez.
Ouais, qu'elle est juste méditerranéenne ou...
En fait, j'ai bien aimé comme vous avez introduit l'émission en disant ce que disent nos gestes et pas comment nos gestes nous trahissent. Parce qu'on a tendance à penser que nos gestes nous trahissent et qu'en fait, non, c'est pas vrai du tout. Et quand on fait des gestes, en fait, on lit le geste à la parole, et souvent ça nous permet d'être plus entier dans la communication.
Donc ça veut dire qu'elle est c'est une personne extravertie, ouverte et sympathique.
Non, pas forcément, mais oui, c'est ça, mais en tout cas qui communique avec son corps, qui fait passer des choses avec son corps. Alors on va s'apercevoir par contre que souvent on fait aussi passer nos petits manques de confiance en nous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand une personne parle à une main, d'un seul coup elle change de sujet de conversation, puis elle amène la deuxième main. Donc pourquoi est-ce qu'elle amène la deuxième main maintenant? Peut-être qu'elle est moins assurée, peut-être qu'elle... Mais en même temps, elle fait passer son message.
Moi, je parle toujours avec les deux, donc à mon avis, c'est qu'il y a un gros manque de confiance. Alors peut-être.
En fait, faudrait se poser ces questions-là.
Comment on fait pour savoir si la personne qui est en face de nous est vraiment captivée par ce que l'on dit? Ça pourrait nous servir en interview, Julia, ou bien s'ennuie profondément, ou alors même, je sais pas, on va prendre l'exemple du rendez-vous amoureux ou même professionnel. Quels sont les signes à surveiller pour voir qu'on est vraiment, vraiment très bien écouté?
Déjà, quand on écoute quelqu'un, on le regarde. En fait, mieux on se connaît, moins on se regarde, par contre. Et puis mieux on se connaît, moins on se sourit, d'ailleurs. Mais quand on se connaît bien. Mais donc, ça passe par les yeux, et on va s'apercevoir que les feuillets palpébraux, qui sont une petite zone qui est sous l'œil, qui fait qu'on voit le blanc de l'œil ou qu'on ne le voit pas, ont tendance à monter quand on est bien excité par ce que l'autre nous raconte.
On plisse un peu l'œil, en fait.
Voilà. Et puis là, ça remonte sous l'œil. Alors ça, on peut pas contrôler ça. Hein. Ça veut dire
que ça m'intéresse quand je plisse je commence à m'ennuyer et ça m'emmerde.
Ça vous ennuie et puis donc l'œil va se réouvrir et puis aussi vous allez surtout arrêter de cligner des paupières.
Quand vous avez le regard de poisson rouge là comme
vous arrêtez de cligner des paupières.
Ça veut dire que je m'ennuie ça ?
En clignant des paupières. Oui, en clignant des paupières, en fait, on va chercher l'information qui est à l'extérieur pour l'emmener dans notre cerveau. Donc quand on arrête de cligner des paupières, on arrête aussi d'écouter l'autre.
Et si je commence à croiser les bras pendant que vous me parlez, ça veut dire quoi ça ?
Ça c'est intéressant parce que on a entendu dire partout que quand on croise les bras, on est fermé, ce qui est absolument pas vrai.
Moi, ça m'aide à me concentrer, au contraire.
Oui, exactement. Ouais. Si vous reculez en arrière en croisant les bras, vous savez, le petit enfant qui ne veut pas de ses brocolis et qui va croiser en disant « j'en veux pas », c'est sûr qu'il se ferme en croisant les bras. Par contre, lorsqu'on est intéressé par l'autre, très souvent, il nous arrive de nous avancer en croisant les bras pour mieux écouter l'autre.
Donc tout dépend après si le corps suit en avant ou en arrière.
Au moment où ça se passe, est-ce que le corps a tendance à avancer ou est-ce que le corps a tendance à reculer ?
Très bien, c'est subtil. Hein. Philippe Turchet, surtout vous ne bougez pas, on va poursuivre cet entretien et continuer encore un peu à traquer ces gestes, ces postures qui trahissent ou pas, donc parfois nos interlocuteurs. Encore faut-il savoir les décrypter, c'est ce qu'on apprend ce matin. D'ailleurs, vous avez peut-être des questions sur le langage corporel ou même sur notre sujet suivant, la nutrition et la place du gras dans notre assiette. Et pour cela, eh bien, c'est simple. Laissez-nous un message au 3921, notre répondeur, ou encore sur le compte Instagram de l'émission. A tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et vous avez raison, parce qu'on apprend quelque chose de très utile ce matin, à décrypter notre langage corporel. Notre maître sur ce sujet, c'est vous, Philippe Turchet. Vous êtes docteur en sciences du langage, auteur du grand livre de la synergologie, qui sort aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas. Il est à l'envers, pardon. Hop, on a la caméra à l'endroit, c'est mieux. Grand livre de la synergologie qui sort aujourd'hui donc aux éditions de l'Homme. Alors, je crois que vous avez une méthode infaillible, et ça va intéresser beaucoup nos auditeurs, pour savoir si quelqu'un nous ment, sans détecteur de mensonges. Hein, à quoi faut-il être attentif? Je crois qu'il y a 4 principes. Quels sont-ils?
Oui, c'est sûr, mais si c'était infaillible, ça se saurait. Non, il n'y a rien d'infaillible et c'est difficile de décoder le mensonge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le décodage du mensonge, en fait, si vous dites la vérité ou si vous mentez, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui travaillent. Ça, c'est la chose la plus fondamentale. Donc, quand on dit un mensonge, c'est des zones qui sont très, très haut dans le cerveau pour réagir très vite par rapport à l'autre. Alors que quand on dit la vérité, c'est des zones profondes du cerveau qui fonctionnent et on se remet dans la situation qu'on a vécue. Ça veut dire que les gestes ne sont pas tout à fait de la même nature. Les gestes je ne sais pas comment vous prendre un exemple, mais si vous dites que vous êtes avec des amis puis que vous avez été boire un verre et que ce n'est pas vrai, eh bien, vous avez tendance à faire un geste où le verre, vous le montrez à l'autre parce que vous vendez votre anecdote à l'autre.
Alors que si c'est vrai,
vous retournez dans votre corps et vous allez peut-être faire un tout petit geste, mais en disant on a été boire un verre ensemble et le geste est vrai parce que pour arriver à se souvenir des choses, il faut retourner dans son corps. C'est un champ théorique qui s'appelle l'embodiment, hein, qui explique très bien ça. Ça veut dire que les gestes ne sont pas tout à fait les mêmes.
Oui.
Ils sont beaucoup plus incarnés. Mais pour ça, pour que ça marche et pour pouvoir décoder tout ça, il faut mettre la personne en situation d'être à l'aise.
Il n'y a pas un
bien.
Truc vraiment typique du menteur qui pourrait nous aider à aller
déchirer la pupille dilatée.
Non, c'est pas ça. Non, c'est qu'il y a des occurrences corporelles, c'est qu'il y a des petits signes qui vont venir, mais c'est parce qu'ils reviennent. Et le risque, c'est de dire que ça, c'est un signe de mensonge. Parce que ces signes-là, vous allez les voir dans votre environnement.
On va avoir des menteurs partout. Sinon.
Voilà, et on va avoir tendance à voir des menteurs partout. Je crois que, c'est sûr qu'il y a 4 principes. Hein. Le menteur, il va plus vite, donc les yeux ne vont pas se déplacer de la même manière. Il y a ses gestes, il y a de la cognition incarnée. Il n'y a pas le même rythme aussi. Vous voyez, un menteur, il va avoir un corps qui va être linéaire, qui va faire tout le temps les mêmes gestes.
Mm-hmm.
Hein, donc, je fais des gestes là qui sont linéaires avec mes mains parce que je vous vends quelque chose qui n'est pas... Alors que la personne qui dit la vérité, comme elle revit les choses, ben, ses gestes, ils seront moins linéaires. Ils seront pas linéaires.
Ouais. C'est plus chaloupé. C'est plus...
C'est moins beau.
Ah, oui.
Curieusement, le menteur est beaucoup plus joli à regarder.
C'est un tempo plus régulier.
Oui, parce que le menteur, il faut qu'il hypnotise l'autre en face. Il est dans un rôle, en fait.
Il est dans un rôle. Il est en train d'incarner quelque chose.
Alors que la personne qui est même peut-être mal dans sa peau, mal dans la vie, parce qu'elle est mal dans sa peau, eh bien celle-là, quand elle dit la vérité, elle est comme elle est dans la vie. Et son corps n'est pas forcément beau à regarder.
Exactement. Oui. Alors, on parlait de beauté. C'est marrant parce que pendant la publicité, vous nous disiez que les gens beaux, on pense qu'ils ne nous mentent jamais.
Oui, c'est ça, c'est infernal cette histoire. Mais la beauté et la bonté morale dans les aires cérébrales sont interconnectées.
Mais la beauté, c'est pas universel. Moi, je peux trouver quelqu'un de beau, Julia le trouvera moche. C'est bizarre de dire
ça. Il y a quand même des critères universels de beauté. Dans la symétrie du visage, par exemple. Que des gens nous attirent. Et qu'on les trouve beaux alors qu'ils ne sont pas les stéréotypes traditionnels de beauté, ça arrive très souvent. Heureusement d'ailleurs.
Ça veut dire que quelqu'un avec un visage plus symétrique qu'un autre, on lui accordera plus volontiers notre confiance.
Oui, c'est ça. Oui, et puis une personne bien habillée avec un visage symétrique. Vous mettez d'ailleurs, c'est très drôle, parce que quand on morphe les visages, vous mettez 50 visages dits moches, entre guillemets, mais on va se mettre... on arrive à trouver des gens pas beaux. Donc 50 visages. Et vous en faites un seul, il est beau. Ah. Parce que comme il est la moyenne de ces 50 visages, ça donne un visage assez symétrique en fait. Donc non, c'est sûr, une personne bien habillée, une personne qui parle bien, et puis une personne qui est jolie à regarder, eh bien, ont toutes les chances d'être crues.
Alors, on a une question de Bertrand sur Facebook qui nous demande, est-ce que c'est pareil dans le monde entier? Est-ce que ce langage corporel, la synergologie, finalement, est universelle ou est-ce qu'elle est propre à chaque culture?
Oui, elle est universelle, mais on mélange deux choses. Quand on parle du langage corporel, parce que c'est vrai qu'on voit des corps se déplacer différemment, mais on mélange le langage corporel et le rite. On a des rites par culture et de très nombreux rites. On va s'embrasser dans certains pays, on va se baisser obséquieusement dans d'autres, et ça, on va pas s'embrasser, se dire bonjour de loin dans d'autres pays encore. Et puis donc du coup on a des rites qui sont différents. Et quand on regarde ça, on dit bah oui, bah on voit bien que le langage corporel est pareil. Mais derrière ces rites, sous-jacent à ces rites, il y a un langage corporel qui lui est universel. Quelqu'un que vous appréciez, où que vous soyez, c'est les mêmes signes corporels qui vont monter de nous-mêmes.
On a une question très intéressante de Louisa sur Instagram. Elle vous dit, en vous écoutant, j'ai cru comprendre qu'on pourrait séduire, rien qu'avec des petits gestes. Comment être irrésistible alors avec la synergologie? Je cherche désespérément l'amour, vous l'avez sûrement compris. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller à Louisa pour vraiment être une super séductrice grâce à son corps?
Oui, eh ben, ce qu'on peut lui conseiller, c'est d'être intéressé par l'autre. Je crois que ça commence par ça. Quand on est intéressé par l'autre, il y a des choses qui s'allument en nous. Et
mais il n'y a pas un truc, je touche mes cheveux du côté droit, il va craquer, mes vêtements de telle façon.
Non, surtout pas. Ah non. En fait, non, surtout pas.
C'est pas très utile alors, la synergologie.
Parce que ça nous permet de nous tourner vers l'autre et de voir ce que l'autre attend.
Ouais, d'accord.
De ce que l'autre attend. Mais si on est attentif à l'autre, il y a des choses qui s'allument et on est toujours plus beau.
Bon, une dernière question de Nicolas B qui nous demande où est-ce qu'on peut se former à la synergologie. Veut devenir synergologue et arriver à se tourner plus facilement vers les autres.
Eh bien, Institut européen de synergologie à Paris.
Tout le monde peut se former à cette science.
C'est une formation qui dure.
C'est qu'à Paris où on peut trouver
ailleurs. Oui, dans le 8e à Paris. Et puis il y a d'autres centres ailleurs dans le monde, mais il y en a un gros à Paris, il y en a en Suisse, il y en a à Lyon.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Turchet, de nous avoir accompagnés ce matin. Et merci pour cet éclairage très instructif. Plus personne ne pourra nous mentir. Non, c'est pas vrai. Mais en revanche, nous, on sait très bien comment s'y prendre désormais, Mélanie, dans les règles de l'art, pour mentir éventuellement aux gens qui en ont envie de mentir.
Au moins corporellement, on va dire. Merci beaucoup. On va à présent changer de thématique et on vous propose une sorte de voyage, un voyage scientifique dans le monde merveilleux du gras ce matin. Car oui, vous allez l'entendre, nos bourrelets peuvent aussi avoir des bons côtés. C'est notre dossier santé du jour.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est le moment d'accueillir notre invitée suivante sur ce dossier consacré au gras, à la graisse, à la peau d'orange, à la cellulite et j'en passe pas des meilleurs. Bonjour, docteur Laurence Plumet.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste à Paris, fondatrice d'EPM Nutrition, école de napsothérapie et l'auteur du livre que je montre, Le monde merveilleux du gras, aux éditions Erol. Alors, c'est un livre dans lequel vous commencez justement par donner un petit nom au gras puisque vous l'appelez Robert. Pourquoi ce petit surnom sympa?
D'abord, petit, parce que les adipocytes sont petits, et je trouvais que petit Robert, c'était sympa.
Oh, c'est mignon.
Et je voulais le rendre attachant, ce petit personnage, parce que je voudrais dédiaboliser le gras, justement.
Parce que vous l'aimez, le gras?
Oui, alors attention, il y a certaines formes de gras. Tous les gras ne sont pas gentils. Il y a du mauvais gras, j'explique lequel, comment le dépister, comment le traiter, mais il y a du bon gras aussi.
Bon, alors ce gras dans notre corps, à quoi il ressemble exactement? Parce que c'est vrai, quand on pense graisse, gras, on se dit c'est un truc un peu blanc, jaune, gluant, dégoûtant, comme ce qu'on voit un peu à la boucherie, c'est ça?
Alors en termes scientifiques, on parle de tissu adipeux blanc. En réalité, il n'est pas blanc, il est jaune. Ce sont des milliards de petites cellules.
D'où la couleur du livre.
Tout à fait,
c'est ça, tout jaune.
Donc ce sont des milliards de petites cellules graisseuses qu'on appelle des adipocytes, qui sont toutes coincées les unes à côté des autres, qui sont enchâssées dans de la fibrose, et plus les années passent, plus cette fibrose se développe, et donc plus ce tissu adipeux est cohérent, et souvent refermé sur lui. Tiens, gestuellement, je fais le tissu adipeux qui se rétracte sur lui. Et donc, il est difficile de maigrir avec les années. Oui.
Bah oui, parce que c'est de fibrosé, enfin, je sais pas comment on dit, bien
sûr. Oui. Donc, il change aussi, il vieillit, ce tissu adipeux. Bah, il a une vraie vie. C'est un organe, d'ailleurs. Organe, comme le cœur, les reins, le cerveau, d'un organe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est réparti dans le corps en des endroits différents. et que chaque gras à des endroits différents, a des fonctions différentes aussi. Donc, il est complexe à comprendre.
Il est trop mignon, ce petit Robert. Alors, on a une dizaine de kilos de gras de réserve en temps normal. C'est bien ça ? C'est normal d'avoir une dizaine de kilos de gras ?
Oh, mais ça peut même être un peu plus, parce que, disons que chez l'homme, le tissu adipeux peut légitimement représenter entre 15 et 20% du poids du corps. Et chez la femme, un peu plus, parce que nous sommes censés assurer la pérennité de l'espèce, donc il nous faut un peu plus de réserve de calories.
La nature est bien faite. Hein.
Mais tout à fait. Mais rien n'est jamais fait innocemment dans un corps humain. Et donc, le tissu adipeux représente chez la femme 20 à 25% du poids du corps. Donc, autrement dit, une femme qui pèse 60 kilos pourrait avoir tout à fait normalement 25% du poids de son corps, c'est-à-dire une quinzaine de kilos de graisse, qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Il faut arrêter de faire la chasse au gras. Ce n'est pas l'ennemi public numéro un.
Bon, et ce gras, donc, même si on l'a dit, hein, on lutte bien souvent pour s'en débarrasser, il a bien une fonction. Vous avez dit même que c'était un organe. À la base, je crois que c'est même bon de stocker du gras. C'est important pour la santé. Hein.
Ah mais tout à fait, parce que quand on part en vacances, on aime bien apporter nos réserves de nourriture. Ben, le corps, c'est pareil. Il a ses réserves de calories. C'est tout à fait normal.
D'énergie, hein, c'est ça.
Tout à fait, puisque 1 gramme de graisse est capable de stocker 9 calories. C'est la seule molécule qui puisse stocker autant de calories dans le corps humain. Et cette fonction, elle est utile, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Quand on part faire un voyage, on aime avoir son stock de nourriture. C'est pareil pour le corps humain. Alors, encore faut-il ne pas en avoir de trop, tomber dans l'obésité, parce que là, on est malade. Mais si nous n'avons pas assez de graisse non plus, c'est aussi une certaine forme de maladie. Et les gens qui n'ont pas de gras du tout sont aussi malades que ceux qui en ont trop. Donc ce gras, il a des vraies fonctions, entre
autres. C'est pour ça qu'on est aussi en forme, Julia.
Mais oui, mais il faut avoir...
On a du bon gras, nous.
C'est ça, il faut avoir ce gras, premièrement, réserve de calories. Très utile au cas où on tombe malade. Parce que quand on a 10 kilos de graisse à raison de 9 calories par gramme, ben ça fait pratiquement 100 000 calories de réserve. Ce qui peut nous assurer quasiment 2 mois de jeûne complet. Ah, alors, il ne s'agit pas de se lancer dans le jeûne.
Oh, moi, je dois être à 2 mois et demi, hein, je pense.
Avec Mélanie, on peut faire un nouveau confinement, je pense.
Donc, je ne veux pas inciter à la pratique du jeûne parce que je suis complètement contre. Hein, c'est une agression pour le corps, mais on ne sait jamais, on peut tomber malade, par exemple, et ne plus se nourrir. Bon, bref, donc.
C'est pas mal d'avoir des réserves.
C'est un tampon énergétique. Mais il n'y a pas que ça.
Non.
Le gras, il stocke aussi les polluants. Hein, quand nous mangeons tous les jours environ 300 additifs. Des pesticides, des produits chimiques et autres. Ces pesticides sont souvent ce qu'on dit lipophiles, c'est-à-dire solubles dans le gras. Donc ces molécules vont se stocker dans notre graisse qui sert un peu de tampon.
Et qui va s'en débarrasser ?
Et qui évite que ces molécules aillent intoxiquer les cellules.
J'aurais peur que ma graisse soit toute toxique, du coup, pleine de pesticides et tout ça. Après, elle va s'en débarrasser.
Oui, mais non, il vaut mieux que ça soit dans votre gras plutôt que dans vos cellules.
Ouais. Ah oui. Alors, les grands sportifs, on en connaît. Nous, on a Jean-Marc Delorme, notre coach. Il nous a dit l'autre jour qu'il avait combien, Mélanie ? 5% de
masse graisseuse. Il est sec, sec. Hein.
Quand il s'entraîne pour ses
ultra-trails. Il ne faut pas qu'il y ait 10 pour lui.
Ouais. Parce que... Alors, est-ce que ça, c'est dangereux pour lui de ne pas avoir de réserve de gras ?
C'est pas dangereux. Mais s'il avait un problème de santé, disons que si le corps avait besoin d'aller puiser des calories, à défaut de l'épuiser dans le gras, il irait l'épuiser dans le muscle. Donc c'est quelqu'un qui taperait énormément dans sa masse musculaire en cas de pathologie. Et au demeurant, par exemple, les marathoniennes, on sait très bien que les marathoniennes, qui sont des femmes maigres et souvent très sèches, ont des gros problèmes de fertilité et de menstruation. Souvent, elles sont aménorrhéiques. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de règles. Donc on voit bien, parce que ça c'est aussi une autre qualité du gras, il fabrique des estrogènes, des hormones sexuelles. Donc quelqu'un qui n'a pas de gras du tout, le cas de ces femmes, a du mal à fabriquer ses hormones sexuelles, donc plus de règles du tout.
Donc il nous est bien utile effectivement.
Exactement.
Ce gras.
Ah oui, c'est un organe.
Docteur Plumet, on va se retrouver dans un court instant, on va continuer notre immersion dans le monde merveilleux du gras. Alors malgré tout, soyons honnêtes, hein, le plus souvent ce gras, les bourrelets, on veut s'en débarrasser. Et à cette époque, en hiver en général, ben, on peut dire qu'il y a de quoi faire. Alors comment s'y prendre efficacement pour perdre surtout du gras et pas du muscle par exemple ? Restez avec nous sur Europe 1 car on vous explique tout très vite. Surtout, vous ne bougez pas.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Nous sommes toujours en studio avec le docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste à Paris, qui nous fait découvrir le monde merveilleux du gras. Et c'est d'ailleurs le titre de votre livre paru aux éditions Erol. Alors ce gras, ces bourrelets disgracieux qu'on peut avoir, est-ce qu'ils viennent forcément parce qu'on mange mal et pas équilibré, ou est-ce qu'il y a des gens dont le corps, on n'y peut rien, eh bien, fabrique plus que la moyenne du gras?
Alors, c'est vrai que souvent, quand on mange trop gras et trop sucré et qu'on ne se dépense pas assez, à ce moment-là, on grossit. Ça, beaucoup de gens le constatent. Mais il est vrai aussi qu'il y a une hérédité dans le surpoids. Il y a des familles de gens qui ont des problèmes d'obésité. Alors, bon, la génétique intervient. On a identifié à l'heure actuelle environ 40 à 50 gènes qui sont concernés. Donc des gènes qui agissent au niveau de la capacité de stockage. Donc ce sont des gens qui stockent plus facilement, qui réagissent en prenant du poids au moindre écart. Des gènes qui agissent au niveau du comportement alimentaire. Des gens qui ont souvent très faim, qui ont du mal à contrôler leur comportement alimentaire. Et possiblement des gènes qui agissent sur le microbiote, puisqu'on sait très bien maintenant qu'il y a un microbiote des gens en surpoids et un microbiote des gens sains. Bon, bref, on en apprend toujours plus et c'est une maladie multigénique. Mais pour autant, quand on sait qu'on appartient à une famille de gens en surpoids, il ne faut surtout pas se mettre dans la tête que c'est une fatalité. Disons que c'est une information importante qui incite à manger bien, à bouger, à bien dormir, bref, à avoir une bonne hygiène de vie et tout peut très très bien se passer sans être dans le surpoids.
Donc pour se débarrasser de cette graisse, celle qui n'est pas bonne et celle qu'on ne veut pas et qui peut nous rendre malade éventuellement, parce qu'avoir un peu de graisse c'est bon, ça on l'a bien compris, mais trop de graisse ce sont des maladies du diabète, etc. Justement, vous l'avez dit, les trois piliers, ce n'est pas le régime, c'est le sommeil, une bonne alimentation, le sport. Et pour ça, donc l'idéal, c'est de peut-être faire de la napsothérapie, de consulter un napsothérapeute. Je précise que vous êtes la fondatrice de PM Nutrition, école de napsothérapie. C'est un nouveau métier, c'est quoi la napsothérapie
tout
en
fait.
Quelques mots.
C'est un métier que j'ai récemment créé, qui est un métier qui forme à l'identification des erreurs de comportement des gens dans le domaine de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil, parce que c'est une dimension très importante, et qui va les corriger. Tant qu'on n'a pas corrigé ses comportements, on ne peut pas gérer sa santé. Donc ce métier les forme à ça, identifier les erreurs et conseiller les gens pour les corriger.
Est-ce que vous pensez que le stress, en tout cas trop de stress, ça peut nous faire grossir ou faire stocker trop de graisse parfois ?
Tout à fait. En fait, il y a deux composantes dans le stress. Premièrement, quand on est stressé, on va chercher l'antidote du stress. L'antidote, c'est le chocolat, sont les produits sucrés, ça fait du bien, ça rassure.
Ça marche bien, oui.
Donc les gens, souvent, en réponse à un stress chronique, pas aigu, et chronique, les gens vont se jeter sur le chocolat et les biscuits. Deuxième raison, c'est que le stress augmente la sécrétion de cortisol. C'est une hormone qui va avoir pour effet de développer le fonctionnement de la graisse profonde, la graisse qui entoure les viscères. C'est elle qui est mauvaise et qui est sous la dépendance du cortisol. Donc ça va faire grossir aussi. Donc deux raisons. On mange plus sucré et puis on grossit du ventre sous l'effet du cortisol.
Mais on ne peut pas le tuer, ce cortisol ?
Alors, c'est surtout qu'il faut comprendre la raison du stress et la corriger. Plutôt que d'essayer de surtout pas prescrire des régimes à ces gens-là, il faut comprendre la raison du stress, la corriger et de facto, la personne sera moins attirée par le sucre et va maigrir.
Parce que faire un régime restrictif, c'est le meilleur moyen de fabriquer encore plus de graisse à long terme.
À partir
de quand, justement, parce qu'on a parlé de la bonne graisse, on a dit que c'était important d'en avoir et surtout quand on est une femme, un peu plus que les hommes, à partir de quand, pour le coup, on devrait considérer qu'on a trop de gras ? Comment le savoir ?
Il y a deux dimensions. Il y a le ressenti de soi, de son corps. On est bien ou on n'est pas bien, puis il y a la dimension médicale. Vous pouvez avoir entre 5 et 10 kilos de trop, vous trouver belle, être bien avec votre partenaire, et sur le plan médical, avoir un check-up médical nickel.
Donc là, il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire, vous êtes en très bonne santé et vous porterez peut-être même mieux qu'une personne qui sera mince ou maigre. En revanche, à partir du moment où on n'est pas bien dans son corps, on est complexé, on n'a plus envie d'avoir des relations sexuelles, on n'ose pas montrer son corps, et qu'en plus le check-up médical n'est pas bon,
voilà.
C'est là qu'il faut réagir. Et là, probablement, on a à partir de 10, 15, 20 kilos de trop, et puis ensuite, quand on dépasse les 100 kilos, on est dans l'obésité qui est une maladie. Là, il faut réagir.
Alors, vous parlez de l'indice glycémique des aliments dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et comment savoir qu'un aliment a un indice glycémique, un IG particulièrement bas ?
Alors, l'index glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à plus ou moins élever le taux de glucose dans le sang, la glycémie. Quand vous mangez un produit sucré, ça augmente très vite la glycémie. Et quand le taux de glucose est élevé, toc-toc à la porte du pancréas en disant « je suis là », le pancréas va sécréter de l'insuline qui va prendre le glucose et le faire rentrer dans les adipocytes pour faire du gras. Donc moins on réveille le pancréas, moins on sécrète de l'insuline, mieux on se porte.
Et comment on sait comme ça en regardant dans le supermarché ce qui a un index glycémique bas, ce qui a un index glycémique haut ?
Alors on ne peut pas le savoir parce que de toute façon tous ces aliments sont catalogués dans une liste d'index glycémique qu'on peut consulter. Voilà. C'est la liste de Brandmiller qui est sur internet, on peut très bien le voir. Mais il existe une règle générale. Les produits sucrés, en général, sont hyperglycémiants. Donc, voilà.
Bon, tous les gâteaux, les bonbons, tout ça, les sodas, vous pouvez les mettre là-dedans. C'est bon,
exactement.
D'office.
Tout ça élève la glycémie et ça fait grossir. Le pain, il y a différents types de pain. Le pain blanc, la baguette raffinée, augmente très très vite la glycémie. Donc si le matin au petit déjeuner, vous prenez du pain blanc avec de la confiture, alors là, vous avez une glycémie qui est très élevée. Voilà. Alors que si vous prenez du pain tradition, ou du pain complet, du pain aux céréales, du pain sarrasin, là, la glycémie augmente peu. Mais, chose importante, on peut toujours abaisser l'index glycémique de son aliment grâce à des fibres, Raison pour laquelle il faut manger des légumes à chaque repas. C'est ce que je recommande à mes patients pour abaisser l'index glycémique. Ça ne diminue pas les calories pour autant. Hein.
D'accord.
Mais au moins, ça abaisse la glycémie, ça réveille moins l'insuline. Mangez des légumes avec vos féculents.
Ah, c'est pour ça qu'on entend, oui, manger des légumes avec vos pâtes. Je n'avais pas compris pourquoi.
C'est tout,
pour
à fait, baisser tout à l'index, fait. L'index, plus on a de fibres au repas, mieux c'est. Donc, des légumes. Dans, en fait, dans l'assiette, il faut un peu de viande ou de poisson ou des œufs. Mi-légumes, mi-féculents. Ça, c'est l'idéal.
Alors, pourquoi les hommes, souvent, ont un gros ventre dur en vieillissant? On est d'accord que c'est bien de la graisse et pas des abdos qui prennent du volume après 45 ans.
Bah, s'ils avaient des abdos, le ventre serait plat. En fait, le gros ventre bombé, c'est un excès de graisse profonde. C'est la très mauvaise graisse, celle qui rend diabétique, qui fait monter le cholestérol, qui rend hypertendu et qui donne des troubles du sommeil. Et en fait, cette mauvaise graisse qui se répand autour des viscères, elle repousse la paroi abdominale. Et en fait, quand on sent que c'est dur, c'est en fait la musculature, les abdominaux
que l'on sent.
Parce que
les abdos sont devant, mais derrière, les abdos sont devant. Pas fameux, quoi.
Donc toute la graisse est derrière. Mmh. Donc ça veut dire que cette personne doit urgemment maigrir parce que ça, c'est de la mauvaise graisse.
L'avantage, nous, c'est que c'est un peu partout.
Ouais,
hein,
oui, alors bien sûr, parce que les adipocytes sont munis de récepteurs aux hormones sexuelles. Les adipocytes du ventre sont sensibles à la testostérone. C'est pour ça qu'ils se développent chez l'homme. Alors que les adipocytes du petit bourrelet du ventre et des cuisses sont plutôt sensibles aux estrogènes. Et c'est pour ça que nous, les femmes, si on ne fait pas ce qu'il faut, on mange trop et on ne bouge pas assez, on va voir nos cuisses augmenter de volume et le petit bourrelet apparaître. Voilà, mais ça, c'est de la bonne graisse. Hein. Ce n'est pas une méchante graisse sur le plan métabolique
donc,
et cardiovasculaire.
C'est plus dangereux presque pour ces messieurs en vieillissant quand on a ce gros ventre dur là devant, justement.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a une façon de le perdre particulièrement, ce ventre dur des messieurs là,
Le trio, sommeil, activité physique, alimentation. Mais je dirais que tout commence par le sommeil. D'abord, il faut se coucher bien avant minuit. Et pourquoi? Parce que quand on a suffisamment de sommeil, 7 à 8 heures.
Julien se couche à 8h30 tous les soirs, elle est trop contente.
C'est très bien.
Mais j'ai du gras, pourquoi
quand on,
alors
quand on a 7 à 8 heures de sommeil, eh bien on est en forme. Et on n'a pas envie de manger sucré, parce que le cerveau a son content
donc
de sommeil.
On commence par le sommeil quand on veut maigrir, finalement.
Exactement.
Hein, c'est ça, oui.
Déjà, il faut se coucher bien avant minuit. Je vois trop de gens qui se couchent à 1 ou 2 heures du matin, c'est un massacre. Et ces gens-là vont grossir, à tous les coups.
Ah oui.
Donc on se couche bien avant minuit, 10h30, 11h, c'est parfait. Et on a ces 7 à 8 heures de sommeil. Comme ça, on a la pêche. On peut prendre des vitamines le matin éventuellement, ou alors un bon petit déjeuner. Et dans la journée, on bouge. Et comme on est en forme, on bouge. On bouge, on ne reste pas statique dans un fauteuil, on se lève toutes les heures, on monte les escaliers, on fait 2 ou 3 heures de sport dans la semaine, bref, actif.
Et après on est crevé, donc on va se coucher tôt en plus, ça tombe bien.
Exactement. Exactement. Et enfin, troisièmement, on s'intéresse à son alimentation. Et là, ce qu'on fait, on mange bien le matin, on mange bien à midi, et le secret de la perte de poids, c'est le dîner léger. Et comme on a bien mangé avant, on mange léger le soir. Léger le soir,
pas
c'est
quoi? Pas de féculents.
C'est on évite les féculents, on évite le pain fromage, on évite le vin, on évite les desserts sucrés. On est plutôt légumes plus, ça tombe bien, soupe, jambon, omelette, salade. Vous voyez, on est plutôt légumes, avec un petit peu de pain, pourquoi pas. Et on termine plutôt que sur du fromage, avec un laitage et un fruit. On n'a pas besoin de plus, puisque la nuit, on dort. On ne brûle pas de calories, donc en faisant un dîner léger, c'est bon, on ne grossit pas la nuit.
Très bien, merci beaucoup docteur Plumet pour toutes ces explications et pour ceux qui voudraient en savoir plus, eh bien, je rappelle le titre de votre excellent livre, Le Monde Merveilleux du Gras aux éditions Erol. Merci beaucoup.
Merci.
Oui, merci docteur. Maintenant, nous allons lancer la partie tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord la chronique gourmande, je suis désolée, de Sophie Menu. Et avec elle, eh bien, vous savez quoi, elle nous apporte des dates.
Ça doit être un index glycémique haut.
Ouais, je dois fabriquer quelques petits bourrelets, mais c'est pas bien grave, on va apprendre à bien les accommoder ces date dans notre assiette. Ensuite, il y aura Nathalie Le Breton qui a sélectionné aujourd'hui pour nos enfants des livres qui racontent merveilleusement bien les grands-parents. Et puis, on va terminer avec Philippine Darblay. Elle a testé pour nous des cours de danse nouvelle génération. Ça, c'est bien pour le gras. Désormais, on peut apprendre à danser comme Britney Spears, comme Beyoncé. C'est au choix et c'est surtout excellent pour notre corps. Donc, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1,
11h30.
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être feel good ici. Vous le savez, on ne pense qu'à vous chouchouter, à vous faciliter la vie. Et donc, on va démarrer avec Sophie Menu. Bonjour Sophie.
Bonjour à vous.
La tendance culinaire du jour, c'est de mettre des dates dans notre assiette, c'est bien ça?
La date, ça nous branche.
Oh. Ah, c'est un très beau slogan. Ensuite, ce sera votre tour, Nathalie Le Breton. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors, papy, mamie, pépé, mémé, mamou, ils seront tous à l'honneur dans votre sélection de livres du jour. jour, c'est bien ça?
Oui, quel que soit leur style, eh bien, ils aident nos enfants à se poser.
Mmh, on a hâte d'entendre savoir plus. Et enfin, on terminera avec vous, Philippine Darblay. Bonjour Philippine.
Bonjour.
Vous testez beaucoup de tendances pour nous en ce moment. Et là, aujourd'hui, je crois que vous avez particulièrement mouillé le juste au corps, n'est-ce pas?
Eh oui, on va danser. Ça, je vous le promets, c'est
j'adore
sûr.
Ça. Mais
c'est...
des danses nouvelle génération.
Exactement.
Hein, c'est pas du classique. Hein.
Exactement. Plein de nouveaux cours de danse très, très, très amusants, vous allez voir.
Très bien. Merci Philippine. On vous retrouve dans quelques minutes pour se déhancher en musique. Mais tout de suite, on va passer à table dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Ah, Sophie Menu. Bon, juste avant, dans l'émission, on parlait du monde merveilleux du gras avec un médecin nutritionniste. Et là, je crois que dans votre chronique du jour, ça va être surtout le monde merveilleux du sucre, c'est ça?
Exactement. Je vais vous parler de la date lumière de l'Orient. Alors, la date, c'est une véritable bombe d'énergie. Allié idéal, spécialement pour vous qui vous levez très tôt, d'ailleurs, Julien, pour lutter contre tous nos coups de pompe, ce petit fruit se croque tel quel ou joue le jeu des pâtissiers tendance. On le retrouve de plus en plus dans leurs desserts. Il se mêle aussi avec succès dans la cuisine sucrée-salée que vous connaissez, évidemment. Décidément, la date à la palme.
Sophie, j'ai l'impression que la date, elle existe depuis toujours, non?
Depuis très longtemps. Alors Mélanie, je voulais juste, avant d'en parler, vous parler un peu des produits que je vous ai apportés, parce qu'elle se décline, justement, puisqu'elle est assez branchée cette date. Et je vous ai apporté des produits de la marque Ibo. C'est une petite marque française qui est à côté de Cavaillon.
Ibo, hein, tout simple.
Ibo qui fait que des produits bio. Hein. C'est une contraction. Alors, vous avez des dates que vous allez vous faire passer les goûter.
Oh,
et alors,
j'adore,
ils font de la pâte de date qu'on peut mettre comme ça dans des milkshakes, des choses comme ça pour sucrer. Du sucre de date, qui est une alternative au sucre. Du sirop de date,
dingue,
pour mettre dans un yaourt,
c'est
des
génial
choses comme ça. Ouais, c'est génial parce qu'on n'aime pas forcément le goût de la date et du coup on peut quand même le retrouver différemment.
Faut faire pour pas aimer la date, hein, parce que c'est quand même délicieux.
C'est vrai.
Et ça, par exemple, ça remplacerait le miel du matin
carrément
dans le yaourt.
Tout
c'est
à fait. Ça remplace. Et la pâte de date, vous pouvez faire par exemple.
C'est beaucoup mieux que le sucre raffiné, à mon avis. Il y a pas photo. C'est bio, c'est génial.
Bio, santé, vraiment super.
Et on en met moins, sûrement.
Et on en met moins, exactement, Nathalie. Alors, comme vous disiez...
Refaites passer les dates, quand même, parce que je n'ai pas bien goûté.
Alors oui, c'est vrai, la date existe depuis très longtemps. Elle est issue d'un des plus vieux arbres fruitiers au monde, le palmier dattier, qui pousse surtout en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans les oasis, les pieds dans l'eau et la tête au soleil. En fait, depuis l'Antiquité, la date est la base d'alimentation des Bédouins et qui la considèrent comme un arbre de vie. Alors, un palmier dattier qui est bien entretenu, il peut quand même produire jusqu'à 100 kilos de dattes par an.
Généreux, le dattier.
Par régime, hein, vous savez, elles sont toutes regroupées comme ça ensemble au sommet de l'arbre. Et la récolte, en fait, commence à partir de fin août jusqu'à... Là, on est vraiment en plein, en fait. C'est la meilleure saison pour les goûter. Et elle fait partie vraiment des ingrédients indispensables de ces pays-là, en fait, dans leur cuisine. Hein. Tous les tagines, avec les dattes, tous les gâteaux, vous savez, à base de dattes.
J'adore ça, mais c'est encore un produit super calorique, non, franchement.
Non, Julia,
mais
pas tant que ça.
Mais bien sûr
Non, en fait, oui et non.
Mais elle la défend, sa date. Hein,
oui, je la défends.
J'adore la date, mais trop de dates, tue la date.
Non, parce qu'on peut en plus quand même lui décerner un tableau d'honneur, parce qu'elle est riche en glucides, en fibres, en antioxydants. Par exemple, vous qui vous levez tôt, comme je vous le disais, c'est vraiment un booster.
C'est un peu sucré, mais c'est pas gras, quoi. Non, on peut se dire ça.
Non, c'est pas du tout gras. Et vous la glissez quand vous partez en balade, en randonnée l'été ou quoi, ou même maintenant, vous la glissez dans votre poche et puis vous en mangez un peu, ça va vraiment vous...
Bon, la poche risque d'être collante, hein, mettez un truc autour quand même. Hein.
Mettre un Kleenex. Source d'énergie, elle a des fibres qui sont alliées d'un bon transit intestinal. Elle est pourvue d'antioxydants. Elle nous aide à lutter contre les radicaux libres et protège les cellules de notre corps. Elle aiderait à diminuer les maladies cancer, maladies cardiovasculaires. Et en cosmétique, c'est bête que Benjamin ne soit pas là parce qu'il nous le dirait, en fait on l'utilise aussi dans des crèmes, dans des savons pour le corps, d'ailleurs dans les pays qui la produisent beaucoup.
C'est bien riche, quoi. On a compris que ce soit dans l'assiette ou sur la peau, quoi. C'est ça.
Mais comment on choisit la bonne date?
Souvent, elles sont sèches. Moi, j'en ai acheté. C'est très déceptif, je trouve, les dates quand on ne sait pas où les acheter, quoi.
Parce
maintenant, on a une bonne adresse. On a noté. Hein.
On a une bonne adresse à Ikibo, mais parce que comme elles viennent d'ailleurs, forcément, elles sont souvent un peu déshydratées. On peut les réhydrater dans l'eau. Mais surtout, il faut bien les choisir,
génial,
effectivement.
Ah, j'avais même pas pensé à réhydrater. Moi, je jette quand elles sont comme ça, tant pis.
Non, surtout pas.
Il faut faire le bon choix.
Non, il faut les prendre. Il faut qu'elles soient bien rondes, bien charnues, un peu humides, justement.
Comme celles que vous venez nous amener, elles sont
délicieuses.
Hein.
Ouais.
En tout cas, je crois qu'il y a des tas de variétés. C'est quoi la différence?
Alors la différence, alors la reine des dattes, celle qui est vraiment, qu'on appelle doigt de lumière d'ailleurs, elle s'appelle la Delgate Nour. Alors celle-là, c'est vraiment la bombe des dattes. Elle pousse principalement en Tunisie, elle est très ronde, très charnue. Ensuite, vous avez peut-être connu la Medjoul, qui est aussi un peu dans le même acabit, qui elle pousse plutôt en Jordanie et en Israël. Et puis après, vous avez la Kenta, la Ligue, la Bari, la Soukari, qui sont moins connues.
Ah, Philippine ?
Moi, j'avais une question. J'en ai trouvé des magnifiques, très, très, très grosses, justement hyper juteuses, avec beaucoup de matière. Ça vient d'où, ça,
c'est
par exemple ?
C'est la Delgate Nour. Alors, c'est incroyable. La Tunisie, un des plus gros pays producteurs de dattes. Et en Europe, le plus gros consommateur de dattes, c'est la France.
C'est pas vrai.
Ouais, on adore les dattes.
Mais la vôtre, elle ressemblait quoi ? Une petite prune, presque ?
C'était énorme. Ouais, presque une prune. Et avec, enfin vraiment, une suffit pour se faire un dessert. Hein,
complètement. Parce qu'elle est très fraîche, en fait. Du coup, elle est très grosse.
Parce que là, elles sont un peu séchées, quand même. On est d'accord. Celles qui sont... Oui. Nathalie Le Breton ?
Non, je disais, j'ai eu la chance de visiter cette production en Tunisie. Et en fait, la première question qui m'est venue, c'est de leur demander si elle n'était pas transgénique, tellement elle est énorme.
J'ai
et en fait,
de
pas du tout.
Ça.
A priori, non, c'est non, totalement non. Naturel.
On en trouve en France
des grosses dattes.
Voilà, bon. Et elles sont en plus chères.
Bon, petite ou grosse, on veut une recette.
Alors, Mélanie, vous en allez avoir trois recettes.
Oh, génial.
Et j'ai pensé, encore une fois, Julia, parce que le matin, quand c'est un peu dur pour elle,
c'est gentil.
Une tartinade de dattes. C'est-à-dire,
mais en cuisine, c'est n'importe quelle heure, c'est difficile pour elle. Hein, donc, allez-y.
Moi, je prends une date dans mon.
Vous hachez une poignée de dattes séchées ou que vous faites réhydrater un peu. Vous mélangez avec 75 g de fromage blanc nature, vous ajoutez le jus et les zestes d'une orange et vous étalez ça sur une tartine le matin.
Très bien. Oh, ça me va. Ça, ouais.
J'ai une autre recette pour Julia.
Allez.
Lait frappé aux dattes.
Ah, c'est bon, ça j'ai déjà
goûté. Un grand verre de lait de soja mélangé ou de lait normal avec 6 dattes, une cuillerée à soupe de noix de coco râpée, une demi-banane, du jus de citron, un peu de vanille, vous mixez avec des glaçons.
Donc, dire, c'est pas, on peut pas le boire ça, là. Il y a beaucoup de choses de solides à l'intérieur.
Vous rajoutez un peu d'eau ou des glaçons.
Si. Génial.
Et j'ai une recette pour vous, Mélanie, ce soir, l'apéro avec vos copains. Vous ouvrez une date, vous la dénoyautez et vous mettez à la place de la cavité un tout petit morceau de foie gras.
Ah, c'est que pour moi, il faut que ce soit plus gras.
Et là, c'est l'apéro chic.
Pour Julien, c'est le lait frappé de fashionista.
Mais pourquoi je suis punie ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
Non, Julien, venez ce soir aussi à l'apéro.
Allez, merci beaucoup Sophie pour ce coup de projecteur sur la date. Et c'est vrai que c'est pas un fruit qu'on utilise souvent en cuisine. C'est bien dommage. On a maintenant trois recettes pour le prix d'une. C'est génial. Grâce à vous, on saura quoi en faire. Allez, on va poursuivre avec encore des bons plans. Rien que pour vous, il y aura déjà de bons bouquins pour nos enfants sur les conseils de Nathalie Le Breton, sa sélection lecture du jour. Elle est consacrée aux grands-parents. Et puis il y aura aussi la chronique de Philippine Darblay. Elle a testé pour nous des cours de danse d'un nouveau genre. Vous rêvez de bouger comme J-Lo, comme Britney, comme Beyoncé. C'est désormais possible et on vous explique tout sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi et demi et notre séquence tendance continue avec nos chroniqueuses du jour, toujours avec nous en studio. Et à présent, je me tourne vers vous, Nathalie Le Breton, notre Madame Livre pour les enfants, toujours avec des albums pour nous faire sourire et nous mettre les poils qui se hérissent. Quel est votre thème du jour, Nathalie ?
Le thème du jour, c'est les grands-parents. C'est tellement important de créer ce lien et surtout laisser se créer ce lien. Et j'avais envie de commencer avec de l'humour, parce que vous savez que les grands-parents aujourd'hui sont assez éloignés, on a des familles qui sont mosaïques, et souvent on ne sait pas trop comment faire, déjà c'est nos propres parents, donc on a besoin aussi d'un peu de respirer, il va falloir laisser faire les enfants. Je voulais commencer avec l'humour de PEF, qui a sorti il y a quelques temps déjà, et c'est ressorti chez Gallimard, ce livre qui s'appelle « Moi, ma grand-mère ». Parce que les enfants, dans les cours d'école, en fait, ils parlent des grands-parents. Et évidemment, ça se la pète. C'est à celui qui a la grand-mère
la plus cool,
la plus moderne, la plus sympathique. Il avait eu cette idée il y a quelques temps. Alors bien sûr, il y a l'image classique de la cosmonaute. Et puis évidemment, entre eux, ça surenchérit. Il y en a un qui dit « Ouais, mais la mienne, elle est pilote d'ascenseur. » Et puis je vais te dire, moi, la mienne, elle était mousquetaire. Elle est mousquetaire du roi. Et la mienne, elle est pilote de rallye. Et en plus, elle a un appartement, un immeuble de 6 étages. Bref, alors si vous voulez, ça surenchérit. Puis à un moment donné, il y a un petit gars, il est là tout seul, il n'a encore rien dit. Bah, et toi, ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle a de fun ? Qu'est-ce qu'elle a de formidable ? Bah écoute, il cherche bien. Puis il dit, bah moi, elle me fait des tartines avec du beurre et du chocolat dessus.
Là là là.
Et là, on est sûr qu'effectivement, c'est la Madeleine de Proust. Les grands-parents, ce sont la base, les fondements de nos souvenirs.
Moi, c'était du beurre avec du chocolat en poudre.
Mais oui, mais vous voyez, mais je suis sûre que vous avez toutes là autour de la table.
Moi, c'était brioche.
Mais voilà, des souvenirs gustatifs avec vos grands-parents. C'est une excellente base pour regarder nos grands-mères différemment.
Alors ensuite, après... vous nous rappelez que cette transmission fondamentale du grand-parent vers le petit-enfant, mais avec les enfants aujourd'hui, c'est une affaire qui marche dans les deux sens, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, la relation, elle est moins sacralisée, elle est moins solennelle, et que nos enfants vont chercher leurs grands-parents. Alors, je voulais vous mettre le poil et vous dire que ça va dans les deux sens, avec l'histoire de Mon Pépé. C'est sorti chez Gauthier Langros, superbe bouquin d'Émilie Chazeran et Nicolas Dufaux. Alors, une histoire avec un petit garçon qui nous raconte l'histoire de son grand-père, bien sûr. Alors, évidemment, il y a des choses assez fabuleuses qui le rendent fier. Il y a un papier d'un président de la République qui félicite son papy pour des actes auxquels il ne comprend pas grand-chose parce que ça lui parle de la guerre. Mais surtout, avec ce grand-père-là, il a appris des tas de choses. Il a appris à siffler dans les feuilles, par exemple. Il a appris à faire passer le hockey en mettant la tête en bas. Il a appris à observer les étoiles, à observer le ciel. Et puis à un moment donné, il est tellement fier de son papy qu'il veut le rendre encore plus fier en lui donnant, en lui disant « Mais écoute, je t'ai fait la liste de tout ce que je sais grâce à toi. » Et en fait... il se dit, le grand-papa, il veut pas lire, le pépé, il veut pas lire, etc. Il dit toujours, il a une excuse, mais j'ai pas mes lunettes, mais j'ai pas le temps. Et un jour, ce petit garçon retrouve une paire de lunettes au fond d'un placard. Et comme il a le cœur qui parle, il comprend que son grand-père ne sait pas vraiment lire. Oh. Et là, il lui dit, mais tu sais quoi? Moi, je suis en train d'apprendre à lire. Ça veut dire que tu ne connais pas le bruit du stylo, de la craie sur le tableau. Ça veut dire que tu ne connais pas la voix de la maîtresse quand elle fait des dictées, que tu ne sais pas faire les petites boucles et les grandes boucles. Et c'est le petit qui va réapprendre à son grand-père à lire et à écrire. Et il va emmener le devoir chez sa maîtresse. Et vous savez quoi, la maîtresse, quel feeling aussi, elle va mettre un 10 sur 10. Oh, et alors, il va revenir vers son pépé. Papy. Et alors là, c'est plus la gloire, c'est plus une fierté. Papa, pépé a eu 10 sur 10. Voilà, c'est vraiment le genre d'album qui nous dit que... Alors, j'aurais pu vous parler de l'utilisation d'Internet, etc. Mais c'est tellement plus agréable avec les bouquins.
Bah bien sûr. Alors, rapidement, Nathalie, un dernier livre, j'imagine, pour ces enfants qui n'ont pas forcément envie d'aller chez les grands-parents en vacances.
Oui, parce qu'ils les connaissent mal et ça les flippe. Ils n'ont pas tellement le temps de les voir. Et en même temps, les grands-parents, c'est bien aussi pour aider les parents à garder. Et alors, ce qui est formidable avec les grands-parents sortis chez Milan, c'est un petit pratique. Alors, vous allez me dire, mais enfin, quand même, c'est pas des objets, les grands-parents. Non, mais comment on peut attirer les enfants ? Ben simplement en leur disant qu'aller chez les grands-parents, c'est apprendre à remonter le temps. Les machines à remonter le temps. On va chez les grands-parents, et ben d'abord t'observes les photos. Hein, c'est encore des endroits où il y a des photos qui sont dans des cadres comme avant. Et là, on bascule dans un univers. On découvre que l'école n'avait rien à voir avec celle que l'on vit. Et puis peut-être qu'il y a des objets bizarres qui sont dans la maison, que ce soit pour le café, les vieilles machines qui goutte à goutte et qui font du café. Enfin, et tout ça les emmène dans un monde ailleurs. Ça les emmène aussi à aller voir encore plus loin les arrière-grands-parents, ces espèces de dinosaures qui sont là. Et ça les installe tout simplement dans le temps.
Magnifique. Une sélection de livres parfaite, Nathalie, à l'image pour le coup de celle que vous proposez dans les box de noticeauton.fr, ce qui nous facilite bien notre tâche à nos parents.
Merci, Nathalie.
Merci à vous.
Alors, on va passer maintenant à Philippine Darblay. On va se bouger présent avec une nouvelle tendance. La danse comme discipline sportive peut parfois sembler dure ou difficile d'accès, mais ces standards seraient en train de changer pour nous, dites Philippine, pour laisser place à des cours originaux accessibles à tous.
Ouais, c'est vrai qu'on aime tous danser, hein, enfin quand même en majorité, mais alors pour ceux qui ont déjà pris des cours, notamment autour de la table, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas toujours trouvé ça hyper évident, les cours de danse.
Oh, c'est hyper dur. J'en ai fait 14 ans, donc j'aimais bien quand même, c'était pas si dur.
Mais moi j'ai fait un jour un cours de raga dancehall, on aurait dit un vieux crapaud. C'était horrible, j'en arrivais pas du tout.
Bah, c'est vrai qu'on est face à beaucoup de choses, hein. Parfois on a du mal à suivre. Moi, j'ai eu des souvenirs de profs qui me hurlaient dessus. Enfin, c'est pas toujours tout rose, en fait. Hein. Évidemment, c'est pas le cas de tous, mais c'est quand même un monde qui peut être un peu vieux jeu. Eh bien, hurrah ! Enfin, on voit apparaître des cours super originaux, drôles, vous allez voir, et surtout accessibles à tous. Et je dois dire que ça fait du bien, parce qu'on a quand même envie de bienveillance et de positif.
Alors
en
moi,
ce
je veux savoir à quoi ça ressemble maintenant ces cours, Philippine.
Eh bien, le premier style dont j'avais envie de vous parler, ça va vous dire quelque chose, je pense. C'est le grand retour des cours d'aérobic années 80 à la Jane Fonda.
Sophie Menuet est prête à se lever, à danser.
Ouais, de façon Davina, ouais, c'est ça.
Donc voilà, pour tester un petit peu, en fait, c'est vraiment ce type de cours qui a lancé une grande tendance il y a quelques années. Et je viens de le tester chez Dance Floor Paris, qui est un studio tout nouveau, tout rose, avec des néons partout. Et on se déchaîne à fond là-dessus.
4, 3, 2, and squat. Oui, on y est.
Et c'est vraiment, vraiment en fond.
Si c'est pour avoir le corps de Jennifer Bells, moi je veux bien. Ah ouais.
Vous étiez juste en corps fluo ou pas?
Ah ouais, bah on peut faire ce qu'on veut. Vous venez habiller avec votre legging préféré, des paillettes, tout ce que vous voulez. Justement, Émilie, que j'ai rencontrée, elle y va carrément deux fois par semaine et elle ne peut plus s'en passer.
J'adore parce que Kylie est américaine, donc ça donne un petit punch en plus. C'est facile. Moi, j'ai des problèmes de dos et je peux quand même m'amuser. Je fais ça tous les dimanches et tous les mardis et ça donne une patate de dingue.
Et donc voilà, hein. Et puis une des premières personnes d'ailleurs à importer ce concept, ou plutôt le réimporter évidemment puisque ça date des années 80, c'est Julie Granger qui est fondatrice d'une plateforme de cours en ligne qui s'appelle The Studio Paris, et elle nous explique pourquoi ce concept est si fort en fait.
Il n'y a besoin d'aucune technique, les pas ne sont pas techniques, on peut n'avoir jamais fait de danse, n'avoir jamais fait de sport et apprécier ce cours et en ressentir les bienfaits, et ça c'est vraiment important. Il n'y a absolument aucun jugement, on lâche vers des endorphines et je les pousse même à crier parfois pour vraiment rendre l'effort vocal et se lâcher. En général, enfin je peux dire que 100% des élèves ressortent vraiment de ce cours avec le sourire.
C'est vrai que ça donne la pêche.
C'est génial ça.
Après, dans un tout autre style encore plus novateur, Dance Floor Paris propose aussi des cours qui reprennent, attention, les plus grandes chorégraphies du cinéma.
Je veux absolument faire.
Franchement, je vous jure, c'était génial.
S'il vous plaît, j'espère qu'il y a un
mardi. Exactement ça.
C'est mardi. Et Mélanie,
j'y serai.
Mardi dernier, pardon, mais ils en refont. C'était effectivement dernier, Dirty Dancing. Non, mais ils font des tonnes de sessions comme ça. Ouf. Et pour les fans autour de la table, visiblement, il y en a. C'était justement animé par l'iconique Silvia Notargiacomo, que vous avez peut-être dû voir dans Danse avec les Stars. Et le cours.
Oh, elle est géniale, je la connais, elle est super cette fille.
Elle a une pêche, c'est le rêve. Et justement, le cours ressemblait à ça.
On s'appelle toute bébé là. On est dans un coin et on est désespéré parce que notre Patrick n'est pas là. Mais on est une soirée là d'un coup, on le voit. Oh là là! Et il vient nous chercher, il nous lève le bras gauche et avec la main droite, il nous descend la main gauche et il nous déroule et enroule. Finalement, tout le monde a déjà vu des films de danse, d'accord? On a tous un peu on a déjà vu Dirty Dancing, Fame, Footloose, Grease. Il y a quelque chose qui nous est familier dans ce cours, les musiques.
Ça appelle au cœur.
Ça appelle au cœur, ça appelle à notre enfance.
Voilà, et là, on le vit pour de vrai.
On le vit pour de vrai. J'espère que tu as passé un bon
moment.
J'ai
adoré.
Est-ce que tu as été babe ou pas?
Ouais, j'ai été babe un peu. Bon, babe un petit peu tremblant parfois, mais babe quand même.
Merci à toi.
Merci.
Bon,
on peut pas avoir le fond plus fort là.
C'est génial.
Je crois que cet enregistrement parle de lui-même. C'était vraiment le rêve.
Mais ça veut dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est génial.
Et oui, on peut danser sur Britney Spears, sur Beyoncé, sur les Spice Girls. En tout cas pour moi, et je pense d'ailleurs pour beaucoup de femmes, c'est un peu comme un rêve de petite fille qui se réalise. Mais messieurs, et je pointe la régie, attention, ces cours sont aussi pour vous. Rappelez-vous les années 80, vous étiez si nombreux. À vous le titre du prochain Sex Symbol.
Oh, génial. Eh bien, on va s'inscrire, non, Mélanie?
Ah, mais moi, je vais amener même monsieur, je crois.
Ah oui, vous pouvez tout retrouver en ligne. Hein. Dancefloor Paris, dancefloor-paris.com.
D'accord.
Et thestudioparis.com. Les deux, il y a des visios, il y a des cours en ligne à la demande, il y a tout ce que vous voulez.
Ah, même des cours en ligne.
C'est génial. Des cours en ligne.
Plus d'excuses.
Bon, super. Merci beaucoup, Philippine, pour ce focus sur cette nouvelle tendance dansante. Franchement, ça donne vraiment envie d'essayer. C'est ludique en plus à la prochaine soirée. Mélanie, on va épater les copains sur la piste. Merci à toutes les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous avec Mélanie. Nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, de quoi va-t-on parler demain?
Alors Julia, demain c'est beaucoup moins sexy que Dirty Dancing et la danse, mais ce sera du pratique et du très utile. Comment bien choisir sa banque?
vois la transition difficile. Banque traditionnelle, banque en ligne, banque pour ados, les acteurs bancaires sont de plus en plus nombreux et parfois on s'y perd. Heureusement, dans Bienfait pour vous, on fera le point pour vous aider à y voir plus clair pour gérer au mieux vos finances ou celles de vos enfants.
D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.